franceinter.fr.
Avec la place du microbiote intestinal dans les traitements contre le cancer, une révolution scientifique en cours qui est aujourd'hui justement à la une de la science. Depuis 3 ans, en effet, plusieurs équipes dans le monde ont démontré l'importance de notre tube digestif dans la réponse au traitement contre le cancer. Cette semaine, un papier dans la revue Nature pose la question de la suite à donner à ces découvertes. Axel, on en parle avec un des chercheurs au cœur de cette révolution.
Oui, on accueille Hervé Blottière en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Océan à Nantes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, au laboratoire Michaelis, et directeur scientifique du centre d'excellence Metagenopolis, dédié au microbiote humain. Alors, les découvertes s'enchaînent dans le domaine du cancer et du microbiote. On en parle souvent, d'ailleurs, à la une. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé des épisodes précédents?
D'accord. Les collègues français, d'abord, hein, qui étaient de Villejuif, Laurent Zitvogel et son équipe, ont montré que l'efficacité de traitements anticancéreux, au départ dans les années 2013 avec de la chimiothérapie, et puis plus récemment, notamment le papier dont vous faites allusion en début 2018, les immunothérapies, et donc ont montré que, en fonction du microbiote intestinal, ces thérapies étaient plus ou moins efficaces. Et que, en regardant ce microbiote, on pouvait presque identifier quels seraient les répondeurs et non-répondeurs au traitement d'immunothérapie, par exemple.
C'est quoi un répondeur exactement, Hervé Blottière ?
Eh bien, c'est quelqu'un pour lequel la tumeur va décroître, et un non-répondeur, c'est quelqu'un pour lequel l'efficacité de la thérapie ne marche pas et la tumeur va continuer à grossir.
C'est important, avant de traiter un patient, de savoir s'il va répondre ou non, et c'est dépendant du microbiote, c'est ça la révolution ?
Ben, quelque part, oui. Et c'est vrai que c'est important parce que bon, c'est des traitements qui sont lourds, à la fois pour le patient qui va subir ce traitement et pour la société, puisque c'est des coûts très élevés. Et donc, si on peut arriver d'une part à prédire quel est le patient qui va positivement répondre à ce traitement, ben, c'est très bien. Et puis, potentiellement, on peut aussi essayer d'imaginer, d'impacter sur ce microbiote pour transformer les non-répondeurs en répondeurs. Et c'est vraiment la question que pose l'article de Nature d'il y a 3 jours.
Est-ce qu'on a compris le rôle que jouent ces bactéries lors du traitement? Comment elles interagissent avec les molécules qui sont prises par les patients?
Alors, en fait, l'idée des les molécules qui sont prises par le patient sont là pour, quelque part, booster le système immunitaire pour pouvoir éliminer les tumeurs. Et il semblerait que le microbiote puisse être peut-être un adjuvant, mais quelque chose qui va aider, booster la réponse des cellules immunitaires contre la tumeur.
Et ces bactéries, c'est toujours les mêmes pour ces études dont vous parlez depuis 2013?
Alors c'est ça la question qui est vraiment posée à la fin de l'article de Nature, c'est qu'effectivement il y a 3 grandes équipes pour l'immunothérapie qui ont publié des travaux dans le monde, 2 dans le cadre du mélanome, 2 équipes américaines et une française, donc l'équipe de Villejuif. Je dois préciser d'ailleurs que l'analyse du microbiote a été faite par mes collègues de Metagenopolis et en particulier Emmanuel Le Châtelier.
Bon, c'est normal, c'est normal.
De le souligner. Et donc, l'équipe de Laurent Zitvogel a identifié une bactérie qui s'appelle Akkermansia muciniphila comme potentiellement étant vraiment associée à la réponse. Une des équipes américaines a identifié les bifidobactéries, entre autres, il y en a 2 autres, mais les bifidobactéries qui sont, qu'on connaît bien dans notre alimentation, puisqu'il y a certains yaourts ou certains probiotiques qui sont à base de cette bifidobactérie. Et la 3e équipe identifie encore une autre famille de bactéries.
Mais Hervé Blottière, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de poser un diagnostic sur la bonne santé ou non d'un microbiote d'un individu?
Alors,
comment on peut le savoir, hein?
C'est une vraiment très très bonne question sur laquelle on travaille beaucoup. Alors, on n'arrive pas vraiment actuellement à définir ce qu'est un microbiote sain, d'un microbiote moins sain.
C'est dommage.
Ce que l'on
sait,
c'est que, ben oui, il faut encore qu'on travaille. Mais on sait par exemple que la richesse, la diversité de notre microbiote est clairement associée à la santé. Et inversement, dans beaucoup de pathologies qu'on a regardées, on voit une baisse de la richesse et de la diversité de ce microbiote, d'une part. Et puis, on voit aussi des espèces qui normalement sont en sous, enfin des espèces et des genres qui normalement sont en sous-dominance. Et qui vont prendre un peu plus d'importance et devenir dominantes.
Quelles sont
et inversement.
Maintenant qu'on a ces informations, quelles sont les différentes pistes cliniques qui sont envisagées pour je sais pas, se servir de ces bactéries ou alors les transférer d'un individu à l'autre? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça?
Alors il y a deux grandes pistes. La première qui est de dire on identifie le microbiote d'un répondeur et on va le mettre chez un individu qui est identifié lui comme non répondeur. Donc c'est de la transplantation de microbiote ou du transfert de cellules humaines. D'une part. Et l'autre possibilité, c'est justement comme on a identifié certaines de ces espèces, et c'est de préparer une pilule, quelque chose comme ça, avec ces espèces dans cette pilule et les donner en même temps que le traitement.
Une dernière question, est-ce que toujours dans le domaine clinique, ces découvertes vont faire changer la manière dont on utilise les antibiotiques? J'imagine que oui.
Quelque part, ça questionne beaucoup, surtout dans le travail de l'équipe de Villejuif. Ils ont pu montrer qu'il y avait une association entre la prise d'antibiotiques et la mauvaise réponse ou la non-réponse au traitement. Alors, c'est une association. On peut aussi critiquer en disant que si les patients ont pris des antibiotiques, c'est qu'ils avaient des problèmes de santé, qu'il faut peut-être que, étant moins en bonne santé, ils répondent moins bien au traitement. Donc, c'est qu'une association. Mais effectivement, c'est... On est toujours dans la même idée qu'il ne faut pas utiliser les antibiotiques de façon automatique et que c'est vraiment une intervention qui, pour notre microbiote en tout cas, n'est pas sans risque.
Parce qu'elle pique le microbiote ou le microbiome d'ailleurs, c'est essentiel quand on s'intéresse à la question de l'évolution humaine.
Mais on est en plein cœur de médecine évolutionniste et on voit bien ce qui est au cœur aussi du transhumanisme dans une partie, ce qu'on appelle le solutionnisme, comme là les antibiotiques, où on dit on identifie un problème et puis on trouve une solution avec une molécule ou autre, une chimiothérapie. On voit bien que ça ne suffit pas, c'était des progrès formidables. Et par exemple, la question que vous posez, Xavier, à savoir
Axel,
pardonnez-moi.
Il y avait un X,
excusez-moi. C'est pas mon microbiote là quand même. Et non, mais très clairement, quand vous disiez, peut-on introduire une bactérie qui manquerait à une autre personne? Alors ça, c'est une bonne idée, mais il faut savoir que c'est quelque chose d'écosystémique. Cette bactérie est liée aussi à d'autres, et donc on est vraiment dans des enjeux de complexité. Et très clairement, aujourd'hui, les analyses qu'on appelle big data, pardonnez-moi, de données massives avec l'intelligence artificielle, vont permettre, et c'est déjà le cas, des avancées absolument considérables sur cette médecine évolutionniste.
Voilà. Hervé Blottier, on est vraiment dans un domaine palpitant en ce moment.
Oui, si je peux juste rajouter, ce qui est intéressant, c'est que depuis, on pense que le microbiote, dans les 50 ou 100 dernières années, a complètement changé avec notre vie est moderne.
Bien sûr, on va en parler avec Pascal Pic, évidemment, on est complètement dans notre sujet aujourd'hui. Merci Hervé Blottier, merci aux équipes
beaucoup
de France Bleu Loire-Océan pour ce duplex, et puis Axel, on se retrouve demain.
Merci, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on connaît désormais le nom du plus vieil ancêtre des lézards et des serpents. Il s'appelle Megakirella watchleri. Des chercheurs canadiens ont étudié son fossile, vieux de 240 millions d'années, et ont identifié l'animal comme étant un petit squamate du groupe des reptiles à écailles. Le fossile découvert en Italie n'a été identifié que récemment grâce à un scanner à très haute définition. Pour les chercheurs, si les lézards existaient il y a 240 millions d'années, cela implique qu'ils ont survécu à l'extinction du Permien-Trias il y a 252 millions d'années. Une période où la température terrestre était particulièrement chaude. Des amours du sucré, une équipe américaine est parvenue à couper le plaisir du goût sucré chez des souris. Et pour cela, les chercheurs ont manipulé les neurones associés à la sensation que procure le sucre localisé dans l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau des rongeurs. Leur étude suggère également que chaque autre sensation de goût est associée à des neurones spécifiques isolés dans le cerveau. De nouvelles stratégies pour comprendre et traiter les troubles de l'alimentation comme l'obésité ou l'anorexie pourraient émerger suite à cette première. Et puis pour terminer, la découverte d'une huile d'olive vieille de 3 millénaires après avoir restauré une jarre en céramique vieille de 3000 ans, donc découverte en Italie. Des chimistes siciliens ont analysé les résidus organiques contenus au fond et surprise, ils ont révélé la présence d'un corps gras. Il s'agissait bien d'une huile d'olive. En concertation avec les anthropologues, cette découverte vient confirmer l'idée que la fabrication de l'huile d'olive serait donc apparue dès l'âge du bronze en Italie.